La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Alors que la question du harcèlement et des violences sexuelles fait depuis maintenant plusieurs mois la une de l'actualité et qu'un mouvement inédit de libération de la parole s'est enclenché un peu partout dans le monde, la question des relations sexuelles entre médecins et patients se doit également d'être abordée et les transgressions dans ce domaine sont loin d'être exceptionnelles, comme on le verra, avec des scandales impliquant des médecins. Et c'est dans ce contexte qu'une pétition vient d'être lancée demandant l'ajout au code de déontologie médicale d'un article interdisant spécifiquement aux médecins d'avoir des relations avec leurs patients. Cette opération est soutenue par le docteur Dominique Dupagne, que vous connaissez bien dans La Tête au Carré. Une pétition qui a été signée par de nombreux médecins, dont entre autres le psychiatre Christophe André ou la pneumologue Irène Frachon. C'est le dossier de l'émission dans un instant, avec vos messages, vos témoignages et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la question très discutée de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques.
Oui, avec ce rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire aujourd'hui qui conclut à des symptômes bien réels mais qui ne trouvent pas de cause. On en discute avec Olivier Merkel de l'ANSES.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5 qui nous emmènera aujourd'hui sur la planète Mars. Fanny Bouillon réalise notre tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Anna Massardier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et cette pétition publiée donc aujourd'hui pour l'interdiction des relations sexuelles entre patients et médecins et pour que cette interdiction soit inscrite dans le code de déontologie, dossier donc de l'émission avec mes invités Dominique Dupagne, Emmanuelle Piette, la présidente du collectif féministe contre le viol, et Cassandre, victime d'un médecin. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue. Dominique Dupagne, une pétition donc lancée pour demander qu'un nouvel article apparaisse pour interdire toute relation sexuelle, même librement consentie, entre un médecin et son patient. Ça existe ailleurs, mais pas en France.
Oui, et puis même je pensais que ça existait. J'ai découvert, grâce à ces victimes, que ça n'existait pas. J'étais assez surpris et c'est pour ça que j'appuie cette pétition.
Cassandre, vous avez 36 ans. Cassandre est un nom d'emprunt. Vous avez été abusée par un médecin psychiatre. Vous avez porté plainte. Vous avez décidé de témoigner maintenant ?
Oui, j'ai décidé de témoigner pour mettre à jour cette histoire qui est restée taboue et dont j'ai gardé des séquelles quand même assez importantes.
On écoutera votre témoignage dans un instant. Emmanuelle Piette, ces transgressions sont loin d'être des cas isolés, visiblement.
Très fréquents, et ça fait à peu près 36 ans qu'on demande ce genre de mesures, ouais. Que les médecins arrêtent d'abuser de leur pouvoir auprès des patientes.
Qu'est-ce qu'on vous répondait quand vous posiez la question il y a 36 ans ?
J'avais été voir Monsieur Arny, qui était le responsable de conseil de l'ordre au niveau éthique, et qui nous avait dit, c'est le quatrième interdit, donc c'est, oui, je viendrai dire ça dans les procès, parce que les rapports sexuels avec les patients, c'est interdit, sauf si c'est thérapeutique, avait-il ajouté, et je lui avais demandé ce que ça voulait dire.
On aimerait bien le savoir aussi.
Il n'avait pas pu, parce qu'il avait dit peut-être les sexologues, et puis après il s'était arrêté, mais vraiment, on est encore loin du truc.
Allez, on se retrouve dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Selon la manière de les compter, il serait jusqu'à 3 millions en France, les électro-hypersensibles aujourd'hui à la une de la science.
Pour moi, c'est essentiellement des maux de tête très forts, des problèmes cardiaques, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire qui se manifestent quand je suis soumise aux champs électromagnétiques artificiels.
Voilà, et dans un rapport très attendu sur les électro-hypersensibles, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire tente aujourd'hui de faire le tour de ce trouble encore très difficile à cerner. Des symptômes déclarés bien réels, mais aucun mécanisme biologique identifiable pour l'instant, et surtout aucun lien de cause à effet avec une exposition aux ondes électromagnétiques. L'Agence préconise plus d'écoute et plus de recherche. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec Olivier Merkel de l'ANSES, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'unité troubles physiques qui accorde donner ce rapport. Alors, puisque les causes demeurent inaccessibles, parlons des symptômes. Quels sont les symptômes répertoriés qui permettent de définir une personne électro-hypersensible ?
Alors, ça va être un peu difficile de faire la liste, elle est très longue. On peut compter pratiquement une centaine de symptômes. Par contre, évidemment, d'une personne électro-hypersensible à l'autre, ces symptômes varient fortement. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'ils se plaignent finalement, en tout cas, ils associent ces symptômes à une exposition au champ électromagnétique à diverses sources. On retrouve à la fois en cause les téléphones mobiles, le Wi-Fi, mais aussi les câbles électriques au domicile.
Quel était le but pour l'agence avec ce rapport sur lequel vous avez travaillé pendant 4 ans, c'est ça ?
Oui, près de 4 ans de travail. Je crois qu'en fait, tout simplement, la question de l'électro-hypersensibilité, elle était finalement abordée un petit peu de manière à côté des effets des champs électromagnétiques. Et finalement, personne, aucun organisme dans le monde n'avait vraiment travaillé sur le fond, sur cette question. Et je crois qu'il faut souligner aujourd'hui l'ampleur du travail de l'agence qui a permis de mettre en lumière finalement ce que c'est qu'aujourd'hui l'électro-hypersensibilité, comment ces personnes vivent avec ces symptômes, la manière dont ils souffrent de ces symptômes. Je crois que la première recommandation qu'on peut faire, c'est vraiment prendre en compte, prendre en charge les symptômes que ces personnes expriment.
Oui, mais concrètement, comment vous avez travaillé sur le sujet ? Alors, vous avez compilé des études ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, l'originalité de ce travail, c'est bien évidemment les méthodes classiques d'investigation scientifique. On a effectivement recensé toute la littérature disponible sur le sujet, et elle est relativement abondante. Encore qu'il y a encore des choses à faire, bien sûr, mais surtout, on a entendu, on a écouté, on a auditionné un très grand nombre de pratiques qui reçoivent des personnes électro-hypersensibles. On a évidemment entendu les témoignages de ces personnes, des associations qui les représentent, et on a essayé de compiler finalement toutes les hypothèses qui permettent d'une part d'essayer d'identifier des causes à ces symptômes. On a évidemment investigué l'éventuel lien de cause à effet entre l'exposition aux ondes et ces symptômes. Et effectivement, aujourd'hui, les données actuelles ne mettent pas en évidence de lien de causalité entre l'exposition au champ et les symptômes qui sont décrits.
Ça veut dire qu'une personne qui se déclare électro-hypersensible n'est pas capable de détecter la présence ou l'absence de ces ondes autour d'elle, c'est ça, hein ?
Alors, à part quelques études, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle des basses fréquences, c'est-à-dire l'exposition au champ émis par les câbles électriques, effectivement, les études qui ont été aujourd'hui réalisées tentant de faire le lien entre l'exposition des personnes et la perception des symptômes n'arrivent pas à des résultats positifs. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce lien n'existe pas. Aujourd'hui, le problème scientifique, je dirais, sur cet aspect reste entier, et les causes de l'électro-hypersensibilité restent inconnues.
Alors, vous l'avez dit, vous avez balayé 18 hypothèses dans le rapport pour tenter d'expliquer ce trouble. Aucune n'a trouvé de réponse et qui ne permet d'expliquer au moins de manière probable le trouble. Il y en a une dont j'aimerais qu'on parle, c'est l'effet nocebo. Vous y passez 3-4 pages, c'est faible je trouve, parce que c'est peut-être celui qui permet le mieux d'expliquer ce qu'on voit en ce moment.
Alors c'est effectivement aujourd'hui ce que beaucoup de personnes pensent, c'est je dirais presque un petit peu la solution de facilité, c'est-à-dire d'imaginer que finalement tout est dans la tête, que parce qu'effectivement on connaît bien l'effet placebo, on connaît un petit peu moins l'effet nocebo, mais effectivement...
Rappelez-nous ce que c'est vraiment.
Alors en fait concrètement, quand on a finalement la crainte par exemple d'un effet indésirable qui serait causé par un médicament ou par autre chose, une exposition, et qu'on a du coup, qu'on développe des symptômes en lien avec cette exposition, eh bien, la seule idée, la seule crainte peut permettre de développer ces autres symptômes. En l'occurrence, on n'a pas de données scientifiques aujourd'hui qui nous certifient que la cause vraiment de l'électro-hypersensibilité est liée à cet effet nocebo. Par contre, effectivement, ce qu'on met en évidence, c'est que cet effet nocebo peut intervenir dans l'entretien des symptômes des personnes électro-hypersensibles. Par contre, voilà, aujourd'hui, pas de preuve que ça soit l'origine de l'électro-hypersensibilité.
Et vous dites des symptômes et des troubles réels déclenchés par des causes inexistantes. Ça ressemble beaucoup à la conclusion de votre rapport, en fait, cet effet nocebo.
Alors, la conclusion du rapport, c'est finalement la nécessité de dépasser un petit peu cette idée. Je dis pas que c'est simpliste, mais dépasser ça, prendre en charge les symptômes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que des personnes souffrent. Leurs symptômes sont parfaitement réels. Je crois qu'il faut pas nier ça aujourd'hui. Et impérativement, les prendre en charge, assurer les conditions qui vont permettre de les soigner.
C'est vraiment la conclusion de votre travail, d'ailleurs. C'est-à-dire que, voilà, pour le moment, on n'a pas de preuves scientifiques. Mais pour autant, il faut pas laisser ces gens-là de côté et prendre en compte considération quand même ce qu'elles manifestent.
C'est ça, ces personnes, elles existent, elles expriment parfois des souffrances importantes avec différents degrés. Hein. Il y a beaucoup de personnes EHS finalement qui arrivent heureusement à vivre avec cet ensemble de symptômes, d'autres qui sont beaucoup plus affectées. Ça peut conduire à un isolement d'ailleurs psychosocial assez important. Mmh. Et voilà, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de les prendre en charge, d'améliorer cette prise en charge.
Merci Olivier Merkel. Merci. Vous êtes responsable de l'unité troubles physiques donc à l'ANSES et vous avez coordonné ce rapport. Merci Axel.
Merci, à demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'ornithorynque, élu détenteur du lait le plus antimicrobien, ce monotrème original qui a l'apparence à la fois d'une taupe, d'une loutre, d'un castor et d'un canard, pourrait bien être le sauveur de l'une des pires menaces sanitaires de notre époque, donc la résistance bactérienne aux antibiotiques. Une équipe de scientifiques australiens a pour la première fois décrit une protéine clé du lait de ce mammifère aux propriétés antibiotiques très efficaces. La biochimie particulière de ce lait laisse rêveur les scientifiques et espèrent grâce à lui trouver donc un jour une nouvelle façon de répondre aux infections bactériennes. Des chercheurs ont découvert des traces de vie sur la Terre, et c'est très sérieux. Il y a 30 ans, la sonde spatiale Galileo, survolant la Terre, avait révélé des données permettant d'affirmer que la photosynthèse était détectable depuis l'espace. Et en 2017, l'expérience a été renouvelée avec la mission Osiris. À l'aide de spectrographes, l'équipe d'astronomes de l'Université d'Arizona confirme donc que la vie est visible depuis l'espace. L'expérience a également mesuré des taux atmosphériques de dioxyde de carbone et de méthane, bien plus élevés d'ailleurs qu'en 1997, preuve du réchauffement climatique en cours. Et pour les exobiologistes, ces tests sont majeurs pour mieux préparer la recherche de la vie sur d'autres planètes. Et puis l'histoire terrible d'une femme qui a accouché dans sa tombe il y a plus de 1000 ans, non loin de Bologne. Des archéologues italiens ont découvert cette scène d'horreur du Moyen-Âge, donc une tombe de pierre de l'époque médiévale, les ossements d'une femme et ceux d'un fœtus entre les jambes du squelette. Publié dans le journal World Neurosurgery, les résultats montrent que la femme serait morte des suites d'une trépanation. Cette chirurgie primitive était pratiquée pour soigner l'hypertension artérielle à cause de nombreux décès pendant la grossesse au Moyen-Âge. La sinistre découverte illustre ainsi un cas de naissance de cercueil, phénomène d'expulsion de bébés post-mortem relaté dans la littérature scientifique. Allez, notre dossier dans un instant sur les relations sexuelles entre médecins et patients.
C'était une fois, dans l'ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane. Il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum, boum, boum. Et dans les plaines immenses de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence.
Triple Gaines Bar.
De la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flic, flank, spliff, stupé, sing, sing. Bébé et petite pépé, pin-up comme bling, bling. On peut frotter des lampes et que mes 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un Gainsbourg.
Super Gainsbourg. The man with the cabbage head. Super Gainsbourg. He knows the tricks of the trade. Super Gainsbourg.
C'est l'homme à la tête de chou.
Super Gainsbourg.
L'homme à la tête de chou, chou, chou.
Super Gainsbourg.
With the cabbage head.
La Namour, Lola Rastaquer, l'homme à la tête de chou, Choubadou Balouba, Orang-outan, Bubblegum, Baby Boom, des prés, des vents, des poules, Odidou, Didouda. La La Namour, Lolo Lala Rastaquer, l'homme à la tête de chou, Choubadou Balouba, Orang-outan, Bubblegum, Baby Boom, des prés, des vents, des poules.
Super Gainsbourg, c'était MC Solar.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
L'interdiction des relations sexuelles entre médecins et patients, dossier donc de la tête au carré cet après-midi, alors qu'une pétition vient d'être lancée pour demander que figure cette interdiction dans le code de déontologie médicale. Pour en parler, Dominique Dupagne avec nous, vous êtes médecin généraliste, chroniqueur santé à la tête au carré, blogueur, vous avez créé le site atout.org et c'est vous donc qui avez lancé cette pétition. Emmanuel Piette, vous êtes la présidente du collectif féministe contre le viol, et puis Cassandre, vous êtes donc infirmière et vous allez témoigner pour raconter l'abus dont vous avez été fait l'objet de la part justement d'un psychiatre, et les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Dominique Dupagne, pour commencer, comment avez-vous eu l'idée ou décidé de lancer cette pétition Hippocrate?
J'ai pas du tout eu l'idée, en fait c'est une victime qui s'appelle Marie, qui m'a écrit en octobre pour me dire j'ai porté plainte contre mon médecin, je ne sais pas si je vais gagner, je passe au national en appel, et surtout dans sa défense il dit mais je n'ai rien fait de mal puisqu'il n'y a aucun article du conseil du code de déontologie qui l'interdit. Et donc j'ai demandé à ce qu'on le rajoute et on m'a dit que c'était pas mon truc. Aidez-moi, elle avait envoyé ça à plein de gens, la ministre. Et moi j'ai trouvé que c'était très intéressant et je lui dis bah je veux bien vous accompagner. Hein. J'ai pas lancé, je l'ai accompagné. Il y a d'autres victimes qui nous ont rejoints et on a monté une opération de communication professionnelle autour de cette affaire.
Donc ça a commencé en fait sur le blog
au
départ.
Oui. Alors sur le blog, sachant qu'on a un forum depuis 15 ans sur lequel des victimes viennent témoigner et chercher de l'aide, donc il y avait déjà une communauté de femmes qui disaient leur souffrance et que je soutenais indirectement, mais sans que ça soit organisé, pour les aider à aborder le Conseil de l'Ordre qui les terrifiait en fait.
Ouais, Emmanuel Piette, le problème justement pour ces patientes, c'est que très souvent elles sont découragées, voire éconduites au prétexte justement qu'il s'agit d'une relation entre adultes consentants. C'est ce qu'on leur rétorque systématiquement?
En général, on leur dit ça, mais en plus... c'est quand même assez fréquent. Nous, on a sorti les statistiques à la permanence téléphonique viol femme information 0800 05 95 94 où on a
on redonnera le numéro
tous les ans 2400 nouvelles victimes qui appellent depuis 35 ans, ça fait 55 000 personnes. C'est 1,3% des personnes qui ont été violées par un soignant et 90% c'est des médecins. Psychiatre, gynéco, etc. Donc 1,3% par rapport au nombre de personnes violées tous les ans, ça serait 3000 personnes tous les ans violées par leur médecin. Donc c'est un vrai problème. Et c'est un problème qu'on a depuis le début. On s'est constitué partie civile aux côtés de victimes qui portaient plainte contre les médecins depuis très longtemps. La première affaire, c'était Torgeman. Il y avait 60 victimes minimum. À Zout, il y avait plus de 30 victimes. Donc c'est un problème constant. Et ce qui a été constant avec le Conseil de l'Ordre, c'est qu'il y avait eu plusieurs plaintes qui avaient été mises dans les tiroirs et oubliées. Et que ces femmes n'avaient pas été entendues par le Conseil de l'Ordre, que c'est parce qu'il y a du pénal que le Conseil de l'Ordre tout d'un coup s'intéresse à la question, et ils n'ont pas interrompu le médecin. Ça veut dire qu'il y a eu plus de victimes, parce que ces médecins n'ont pas été interrompus. Il faut vraiment que le Conseil de l'Ordre change radicalement sa position par rapport aux relations sexuelles et aux viols commis par les collègues.
Qu'est-ce qui se passe en général lorsqu'une patiente dénonce ce type de fait au sein d'un cabinet alors?
Alors nous, dans les affaires qu'on a eues, elles ont toujours porté plainte auprès du Conseil de l'Ordre. Et la plupart du temps, au moins 3-4 fois dans ces histoires-là, il n'y a pas eu de suite. Du tout. Pour le Conseil de l'Ordre. C'est à la 4e, 5e, quelquefois 6e plainte.
Oui.
Ça veut dire que ça fait 6 victimes de plus. Et plus toutes celles à qui on a dit « c'est même pas la peine que tu parles, ça ne servira à rien ».
Ouais. Dominique Dupagne, la pétition s'appelle pétition Hippocrate, il y a une raison très précise.
C'est que le serment d'Hippocrate, dans sa forme historique, qui a plus de 2000 ans, avait comme deuxième paragraphe « Dans quelques maisons que j'entre, je me garderai de séduire les filles ou les garçons, libres ou esclaves ». Donc c'est un problème très ancien, et alors on a eu la surprise aussi de voir que dans sa version modernisée, dans les années 70, sans doute parce que le serment d'Hippocrate interdisait l'avortement, on a fait disparaître ce chapitre, donc il n'y a plus cette interdiction, et juste marqué « Le médecin ne corrompra pas les mœurs ». Voilà, mais point, sans autre précision. C'est quand même très symbolique.
Quelle valeur il a aujourd'hui, le serment serment d'Hippocrate par rapport au code de déontologie, justement. Oui, c'est ça.
Aucune. Il est prêté symboliquement pendant la thèse, mais il n'est pas opposable.
Et tous les médecins ne sont pas obligés de prêter serment.
Vous êtes quand même forcé, apparemment, il y a quelques endroits.
Toutes les disciplines?
Tous les médecins.
Non, mais de la discipline.
Pour avoir le diplôme, tu prononces le serment d'Hippocrate.
Pour le doctorat.
Et tu jures.
Oui. Parce que
c'est obligatoire.
Ouais. Alors justement, Cassandre, puisque vous êtes là aujourd'hui à ce micro avec un nom d'emprunt, hein, je le répète, vous avez accepté de témoigner. D'abord, la rencontre aussi s'est faite avec d'autres femmes sur le site internet, sur le blog de Dominique Dupagne.
Oui, tout à fait.
C'est là que vous avez vu que vous n'étiez pas la seule, hélas, dans ce cas, et que vous avez pu converser justement avec d'autres victimes.
Oui, c'est quand l'idée de cette plainte a commencé à germer dans mon esprit, en fait, j'ai essayé de trouver des informations sur Internet. Mmh. Et en tapant des mots-clés, je suis tombée sur le forum du site atout.org et j'ai rencontré du coup des femmes qui avaient vécu la même chose que moi. Et ça, c'était pour moi très important de pouvoir discuter avec des gens qui avaient le même langage, qui comprenaient ce que je pouvais ressentir. Mmh. Et du coup, ça m'a aidée à aller déposer une plainte au Conseil de l'Ordre.
C'était avec un psychiatre, en l'occurrence. Oui. Hein, il avait 59 ans, vous en aviez alors 31. Et la thérapie a commencé. Vous étiez étudiante,
oui,
infirmière.
J'étais étudiante. Et si vous voulez, on devait rendre un devoir au niveau de mon école sur une situation de soins qui nous avait posé problème.
Oui.
Et donc, il fallait l'analyser. Donc, j'avais été voir ce médecin parce que j'avais eu affaire à un patient despotique.
C'est ça, c'est fou, hein, parce que vous êtes allé voir ce psychiatre, voilà, justement, dont vous, oui, avez été la victime, parce qu'au départ, souhaitiez vous confier autour d'un problème, voilà, avec un patient, voilà, cynique et despotique.
Autoritaire, et en plus qui était médecin. Et ouais, j'avais pas su du tout me positionner, moi, en tant que petite étudiante, devant ce patient qui était médecin aussi. Mmh. J'avais été déstabilisée totalement, et mon positionnement professionnel, du coup, me questionnait par rapport à ça. Mmh. Donc c'était vraiment un souci d'autorité, voilà.
Ouais. Et alors, vous dites dans votre témoignage que vous avez livré des propos très traumatisants pour vous à ce psychiatre ?
Oui, tout à fait. En fait, on a abordé la thérapie tournée vraiment sur l'impact des violences que j'avais subies lorsque j'étais enfant par rapport à un père qui était très très autoritaire et que je craignais énormément. Donc j'avais toujours cette espèce de soumission à l'autorité qui me hantait quelque part dans ma vie professionnelle surtout, hein, pas dans ma vie privée.
C'est la première fois que vous rencontriez un psychiatre à titre personnel ?
Oui, j'avais déjà rencontré un pédopsychiatre lorsque j'étais enfant, par rapport à ces violences-là, mais voilà, c'est tout.
Donc les séances se suivent, et au cours d'une de ces séances, vous lui confiez un de vos rêves, hein, c'est ça ?
Oui, alors les séances se suivent. Déjà, il faut savoir qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée entre lui et moi. J'avais énormément d'estime pour lui, j'avais beaucoup de considération. Je le portais vraiment sur un piédestal. Pour moi, c'était un maître. Et donc, je lui ai confié effectivement un de mes rêves dans lequel il me prenait dans ses bras. Mais moi, j'avais eu cette sensation d'un père qui prend son enfant dans ses bras. Et ce qui m'avait manqué, c'était ce contact avec mon père, ce contact chaleureux qu'on peut avoir en tant que parent pour son enfant. Et donc, je lui avais confié ce rêve-là, effectivement.
Donc, il vous demande d'analyser le rêve, comme on le fait en séance, et vous répondez.
C'est un rêve qui revient en plus, qui revient fréquemment chez moi, ce rêve-là.
Et vous parlez d'une chaleureuse parenthèse, faisant allusion justement
à
cette relation entre le psychiatre dans le rêve.
Voilà, il m'avait demandé qu'est-ce que ça représenterait justement pour moi de cet enveloppement imaginaire, et je lui avais rétorqué ce serait une chaleureuse parenthèse.
Ouais.
Et c'était le mot parent s'était sorti comme ça et ça m'avait quand même interpellée lui dire ça.
Donc vous avez fait l'expérience du transfert finalement.
Ah, complètement.
Vous étiez en plein dedans.
Ah, complètement. Je lui avais même posé la question, mais qui je serais si j'avais été votre fille? Je lui ai dit ça. Donc vraiment, pour moi, c'était la symbolique de mon père. Je vivais vraiment ce transfert-là. Mais j'en avais pas forcément en conscience.
Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 16 mois, justement, de séance avec lui? Il y a un événement particulier qui se produit?
Au bout de 16 mois, il m'a demandé, au décours d'une séance, de venir m'asseoir sur ses genoux. Donc il était derrière son bureau, moi j'étais en face, assise. Et il m'a dit clairement de venir m'asseoir sur ses genoux, comme mon père aurait pu le faire. Comme j'aurais souhaité que mon père le fasse d'ailleurs. Mmh. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis restée d'abord interdite, un petit peu devant la proposition. Donc, il y a eu quand même un petit temps où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me propose là? Mais je me suis exécutée. J'y suis allée, j'avais confiance en lui, je me suis dit, bon, bah, peut-être que voilà, ça va m'aider, que cet enveloppement imaginaire, j'en ai besoin pour avancer, et donc j'y suis allée.
Et ensuite, ça a été plus loin que d'aller simplement sur des genoux?
Oui, ça a été plus loin parce qu'il m'a embrassée, il m'a tutoyée, ce qui m'a d'ailleurs profondément gênée, surtout le fait qu'il me tutoie. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me tutoyez? Pour moi, c'est pas possible, c'est... Voilà, mais la relation thérapeutique, elle était complètement embrouillée dans ma tête. Je me disais, mais qui c'est qui vient m'embrasser? C'est l'homme, c'est mon père, c'est mon thérapeute. Voilà, je savais plus, j'étais perdue, quoi. J'étais vraiment perdue.
À ce stade du témoignage, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes restée? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas refusé d'interrompre immédiatement, justement, cette relation avec ce psychiatre? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour qu'on comprenne bien?
Je pense que j'avais... Je me suis dit, si j'interromps comme ça d'un coup, je perds mon thérapeute, je perds cet homme qui connaît mes secrets les plus intimes, qui connaît mes faiblesses, qui m'a écoutée pendant tant de mois et que j'estime, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et je vais le perdre totalement. Donc peut-être que ce qu'il me propose, c'est ça la vérité voilà, c'est comme ça que du coup je suis restée coincée.
Vous avez eu le sentiment que les choses, oui, se sont refermées vraiment sur vous à ce moment-là?
Totalement, au cours des semaines qui ont suivi, puis des mois qui ont suivi, ça a été vraiment un phénomène d'emprise. J'ai essayé plusieurs fois de mettre fin à la relation, mais à chaque fois j'y suis revenue, un peu comme les femmes qui sont battues et qui reviennent vers leur mari, ça a été exactement mon cas.
Ouais. Vous dites,
il vous a rappelé?
Oui, j'ai été harcelée.
Parce que quand vous présentez, on a l'impression que vous êtes revenue toute seule. Non, il a fait des choses pour que vous reveniez.
Oui, bien sûr. Et c'est lui qui me fixait les jours de rendez-vous, quand est-ce que je devais venir, parce que tout se passait à son cabinet médical.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? Qu'est-ce qui a fait déclic justement pour vous, pour réagir? Parce qu'il y a eu un dépérissement psychologique très fort.
Ça a été la pire période de toute ma vie. J'ai failli mourir. C'était une destruction.
Et qu'est-ce qui vous a fait réagir, alors?
Ça a été très très loin, ça a été très dur, parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Je pouvais en parler à personne. Même mes sœurs, ma mère, c'était au courant de rien. Et en fait, c'est un article sur la manipulation qui m'a interpellée. Parce que j'aime beaucoup lire, et pendant que j'étais pas bien, j'ai beaucoup écrit aussi. C'est comme ça que j'avais... c'était mon exutoire, en fait, l'écriture. Parce que j'essayais de trouver du sens à tout, et en fin de compte, je trouvais pas de réponse à mes questions. Et cet article sur la manipulation, ça m'a permis d'avoir une autre grille de lecture sur ce qui est en train de se passer. Et de changer un peu mon regard sur ce que j'étais en train de vivre.
Est-ce que vous avez été soutenue par d'autres médecins ou d'autres psychiatres par la suite? Où vous avez fait face justement à un mur face à vous?
Alors,
et face
à ce qui s'était passé. Alors, j'ai été soutenue par une psychologue qui m'avait suivie lorsque j'étais sous emprise, mais à laquelle j'avais pas pu non plus. Je lui avais confié quelques brides, mais sans rentrer dans les détails, toujours cette honte et cette culpabilité. Et donc, elle m'a beaucoup soutenue. Elle a, quand j'ai été harcelée après qu'il venait, il pouvait sonner à mon domicile aussi. J'avais peur de rentrer chez moi. Hein, j'allais dormir chez ma mère. Donc ma mère avait appelé son cabinet pour qu'il cesse de m'appeler. Donc elle m'avait conseillé, la psychologue, d'aller porter plainte pour harcèlement justement. Bon, je l'ai pas fait, mais je pense que si elle avait pas été là, j'aurais perdu pied, d'une façon ou d'une autre. Ou je serais plus là pour en parler, mais voilà.
Vous avez consulté un avocat et vous avez porté plainte aujourd'hui.
Oui, mais entre la consultation de mon avocat et la plainte, j'ai mis 6 mois quand même, le temps de me reconstruire un peu.
Et aujourd'hui, vous avez besoin et vous avez envie et vous allez au combat, là, faire entendre votre voix justement.
C'est important. Pour moi, la plainte à l'ordre, en fait, je l'ai faite pour avoir un tiers séparateur. Pour me dire que je me protégeais comme ça de son abus d'autorité et moi de ma faiblesse aussi, quelque part. Et pour moi, c'était vraiment instaurer une barrière infranchissable que de déposer cette plainte.
Emmanuel Piette, vous conseillez justement toujours de porter plainte aux victimes qui vous appellent, nombreuses, et qui ont ce type de témoignage aujourd'hui.
On dit qu'elles peuvent le faire, mais c'est bien elles qui vont décider. Moi, je trouve que c'est décider de porter plainte, c'est quelque chose de personnel. On peut le faire, mais c'est un choix perso.
Dominique Dupagne, c'est ce type de témoignage qui, justement, vous a décidé aussi à lancer cette opération ?
On pourrait le photocopier, en fait. L'histoire est presque toujours la même. C'est frappant de voir à quel point le médecin harcèle, envoie des SMS, poursuit sa victime. Et c'est très stéréotypé, si vous voulez. C'est vraiment, vraiment, j'ai été frappé de voir que c'était toujours la même histoire, toujours la même culpabilité chez les patientes. Mmh. Bon, Cassandre vous racontera tout à l'heure son accueil à l'ordre. Moi, c'est surtout ça qui m'a intéressé. Ouais. Pour les mécanismes, Madame Piette est mieux placée que moi pour en parler. Mais ce qui m'a frappé, c'est ça. Vous entendez l'émotion qui se dégage quand même de ce que dit Cassandre. Ça prend aux tripes ce qu'on entend là. Et on voudrait que ça s'arrête, quoi. On voudrait que ça soit plus possible.
Allez, on se retrouve dans un instant. Suite de ce dossier, beaucoup de messages pour vous et de témoignages sur franceinter.fr.
It on ya, raise the bar and they move it on you. Take you off the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word be deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather use terrible if we organize. They can get it. Blastmatic, hit them like static. Politician bastards always trying to get at you. But I come hard like a ratchet. Spit it on the head because I'm king of disaster. Laugh, get it at the last lap. I'll be the one hard surfer cause I'm a silver surfer. Great matter, always get it all you suckers scatter when I come hard like mix it in the back. Come on.
Arat Kilo à l'instant.
La tête au carré.
Voilà, Dominique Dupagne, sexualité entre médecins et patients, le thème de l'émission, à l'appui donc de cette pétition qui est sortie aujourd'hui demandant justement l'interdiction même de relations consentantes, hein, auprès donc du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol, et Cassandre donc qui nous a offert son témoignage. Alors, beaucoup de messages au départ d'ailleurs, au début de l'émission, de gens nous disant comme Michel, interdiction inquiétante, je suis le médecin de mon épouse. Martina qui nous dit, si une loi pareille avait existé, je n'aurais pas eu une très belle histoire d'amour avec mon dentiste. Adulte tous deux et consentants, nous avons eu des relations sexuelles et nous nous sommes mariés heureux. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce type de message bien légitime aussi, ouais, Dominique Dupin ?
Il y a deux réponses. D'abord, le libellé exact de l'article qu'on demande, c'est le médecin s'interdit toute relation sexuelle avec les patients dont il a la charge. C'est-à-dire que s'il y a un coup de foudre, on peut confier son patient à quelqu'un d'autre, laisser passer un peu de temps et vivre une histoire, cette fois-ci, hors du cadre thérapeutique. Puis l'autre chose quand même, c'est que si on a connu son médecin dans le cadre d'une consultation et qu'on est tombé amoureuse, est-ce qu'on est à l'aise lorsque dans les années suivantes, on voit une jolie femme entrer dans son cabinet, j'en suis pas absolument certain.
Mais énormément de messages dans ce sens. Hein. C'était
oui,
la première partie de l'émission.
Il y a des histoires. On va pas non plus excuser le viol en disant que parfois il y a des premiers rapports un peu brutaux qui se terminent bien.
Ouais. Frédéric nous dit, je réagis à vos propos, j'ai signé la pétition, mais j'entends que le serment d'Hippocrate est obligatoire. C'est totalement faux. Je suis médecin retraité, j'ai passé ma thèse en 83 en refusant de prêter serment, justement parce qu'un de mes profs était un prédateur sexuel et que je ne pouvais pas prononcer la phrase respectueux de mes maîtres. Cela n'a posé aucun problème et récemment, deux de mes enfants ont passé leur thèse sans prononcer le serment. sincèrement. C'est pour ça que je vous faisais allusion.
C'est une habitude, mais c'est pas facile de refuser. Hein.
Ouais, c'est ça. Sarah nous dit sur Twitter, qu'en est-il des autres pays, la majorité des médecins français n'étant pas spécialement connus pour leur avant-garde, le peu de crédit accordé aux médecines dites alternatives. Alors,
On sait que c'est interdit en Angleterre, c'est interdit en Roumanie, c'est interdit aux Pays-Bas, il y a peut-être d'autres pays encore. Donc, ça existe interdit dans d'autres pays modernes, je dirais. La France n'est pas très en avance.
Cassandre, quelle a été la réaction justement du Conseil national de l'ordre des médecins? Alors, d'abord, vous êtes partie du Conseil départemental pour déposer votre plainte. C'est dans ce sens-là d'abord que ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment s'est passée cette procédure pour vous?
Déjà, quand j'ai eu l'idée de déposer une plainte, j'ai essayé quand même de réunir des éléments qui corroboraient mon mal-être, hein, et donc auprès de médecins qui avaient pu constater ma déchéance au fur et à mesure des mois. Donc je leur ai confié que je voulais mener cette action, et c'est là que j'ai eu les premières réactions assez hostiles par rapport à ça. On m'a même appelé sur mon téléphone pour me dissuader de porter plainte à l'ordre. Que quand on allait voir un psychiatre, c'est que forcément on était déjà pas très bien dans sa tête, donc que ça allait me desservir, c'est le mot qu'on a employé, que ça allait me desservir.
Qui vous a répondu ça? Le Conseil de l'ordre?
Non, mon médecin généraliste et un médecin psychiatre que j'avais vu lorsque j'étais sous emprise, donc au plus mal. Voilà, donc elle s'est permise de me dire ça, d'apporter un jugement sur l'action que je voulais mener. Donc ça a été déjà très 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 difficile. C'était quand elle m'a téléphoné, je me suis effondrée parce que je me suis waouh, déjà que j'avais l'impression de n'être devenue plus rien. Mais là carrément, on me mettait en face que je ne valais vraiment rien. Et ça a été dur à gérer.
Là, vous avez senti finalement, il y a une partie de la profession qui faisait bloc contre vous d'une certaine manière.
Mon médecin généraliste me l'a clairement dit. Il m'a dit, vous allez voir, quand on introduit du juridique, les médecins se serrent les coudes. C'est ce qu'elle m'a dit.
On est en 2017 à ce moment-là.
Se serrent les coudes entre eux. Il faut les comprendre. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ça m'a profondément choquée.
Emmanuel Piette.
C'est ce qui est habituellement dans nos dossiers. C'est pas du tout de soutien du Conseil de l'Ordre à la victime au moment du dépôt de plainte. Je n'ai pas encore rencontré de victime. Alors, on appelle viol femme information quand ça ne va pas. Mais quand même, je n'ai jamais rencontré de victime qui avait été soutenue au Conseil de l'Ordre. J'ajoute qu'on a quand même quelques médecins qui ont été condamnés quelquefois à 6 mois de suspension professionnelle pour agression sexuelle, comportement limite, comme on peut dire, avec des patientes, et qui continuent à être experts auprès des tribunaux. C'est-à-dire que ça ne va pas jusqu'au bout quand même.
Ouais. Pourtant, Dominique Dupagne, la position du Conseil national de l'Ordre des médecins est quand même très ferme sur cette question, dans ses analyses, dans ses commentaires, dans un communiqué qui est paru même aujourd'hui, disant que d'une manière constante et avec la plus grande fermeté, il rappelle qu'aucune forme d'inconduite à caractère sexuel dans le cadre de l'exercice médical ne saurait être tolérée.
Oui, il y a une très grande ambivalence au Conseil national, c'est-à-dire que on dit qu'il ne faut pas, on met des commentaires en disant c'est très mal, des annexes aux commentaires on dit c'est interdit, mais quand on dit puisque c'est comme ça, inscrivez-le directement dedans. Quoi. Ah mais non, parce que alors là, vous comprenez, ça prend un caractère juridique. Donc il y a une façon de tourner autour du pot. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la lutte contre la dissonance cognitive? Est-ce que c'est de l'habitude? Je sais pas. Mais bon, on les secoue un petit peu quand même, hein, c'est clair. Mais ce qui va être intéressant, c'est que Cassandre raconte comment elle a été reçue par les conseillers ordinaux. Parce que là, c'était les médecins qui la suivaient. Mais là, après, il y a son abord carrément du Conseil de l'Ordre qui est censé, en 2017, être informé, vigilant, bienveillant.
Et donc, ça n'est pas le cas du tout.
Alors, quand j'ai été à la réunion de conciliation, j'avais demandé à pas être en face du médecin, c'était au-dessus de mes forces.
Donc du psychiatre, hein,
voilà,
qui avait été donc...
Voilà, du psychiatre incriminé, c'était vraiment au-dessus de mes forces, donc ça a été respecté. Ouais. Donc en fait, il a été reçu d'abord, et ensuite j'ai été reçu en présence de mon avocat, par deux conseillers ordinaux. Et là, ça a été un peu la stupéfaction parce que on m'a fait ressortir que le médecin déjà pensait que j'étais guérie au moment où il m'a demandé de venir m'asseoir sur ses genoux. Donc guérie de quoi? Si c'était de ma soumission à l'autorité, là il avait la preuve que j'étais pas du tout guérie. Donc il se défendait comme ça. Et
ce qui est bizarre parce que les séances auraient dû s'interrompre si vous aviez été considérée comme étant guérie, non?
Oui, mais c'est surtout que, enfin. Pour moi, c'est un argument qui tient pas la route. Sinon, on rencontre sa patiente, comme disait le docteur Dupagne, en dehors de son cabinet, mais on n'entretient pas des relations intimes sur le divan de son cabinet. Donc ça, ça a été difficile à entendre. Ce qui a été difficile, c'est que on m'a bien dit, oui, mais vous comprenez, le médecin, il a déjà été, sa famille a déjà été mise à mal par cette histoire-là. Ses enfants lui font beaucoup de reproches. Donc ça, ça a été d'une violence extrême pour moi, qui est tout perdu et qui est aussi due. Qui est une rupture dans ma vie familiale à cause de cette histoire. Donc voilà, c'était ça leur argumentaire. Et on a fini la séance. Mon avocat leur a demandé s'ils comptaient s'associer à ma plainte ou pas. Ce à quoi ils ont répondu que c'était une décision collégiale. Donc ils ne pouvaient pas se prononcer par rapport à ça. Bon, ça, à la limite, je peux le comprendre. Mais ils m'ont rajouté quand même. Puis vous savez, ici, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, ce médecin. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, mais mon Dieu, quelle crédibilité on accorde à ma parole contre un médecin qui est connu au niveau du conseil départemental. Alors moi, je ne fais pas le poids à côté, quoi. C'est, j'avais, voilà.
Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout du compte?
Au bout du compte, j'ai maintenu ma plainte, qui va être transmise à la chambre de première instance du conseil régional. Mais j'attends toujours de savoir si le conseil départemental va s'associer ou pas.
Bon, il faut se faire
ça fait 6 mois.
Non, c'est assez récent.
D'accord. Ouais. Oui. Dominique Dupagne, le but justement de ce mouvement, de cette pétition, de cette opération, là, de cette pétition Hippocrate, c'est que justement ça puisse vraiment faire bouger et qu'il y ait de réelles condamnations.
Ça ne doit plus arriver. C'est pas tant qu'il y ait des condamnations, on verra, mais c'est que simplement qu'une femme arrivant en disant voilà, il a eu des rapports sexuels avec moi, j'ai des éléments qui le prouvent, ne soit pas traitée comme une érotomane ou comme une affabulatrice ou comme quelqu'un qui veut menacer la famille du pauvre abuseur avec sa femme et ses enfants, mais soit recueillie avec compassion, écoute, et qu'on lui dise madame, c'est pas normal. Et en effet, il y a un article qui l'interdit, on va confronter ce médecin à l'article qui l'interdit.
Et pourtant, pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Et ça n'est pas le cas.
New York avec toi 1984, c'était Téléphone.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà Dominique Dupagne, Emmanuel Piette et Cassandre au moment où sort donc cette pétition demandant donc l'interdiction de toute relation, même consentie, entre médecin et patient. Dominique Dupagne, cette question d'ailleurs, ce point-là précis, ça vous a posé question avec les gens qui ont signé la pétition sur le consentement entre le médecin et le patient?
Le problème, c'est de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de consentement valable entre un médecin qui a en plus une relation très forte avec une patiente et sa patiente, même si ce sont des femmes essentiellement. Donc c'est pas pas du tout une relation librement consentie.
Jérôme nous dit, kinésithérapeute depuis 25 ans, votre émission me laisse mal à l'aise. Ça serait bien quand même de rappeler à un moment ou un autre que la majorité des soignants se comportent sans ambiguïté ni arrière-pensée, que nous avons en face de nous un patient qui, bien que considéré dans son ensemble en tant que personne, ne saurait être un potentiel objet de désir. La relation de soins est détériorisée. Il existe des détraqués cependant dans tous les métiers.
On est bien d'accord et on l'a écrit dans la pétition. Hein. On a dit qu'il ne s'agissait pas de jeter l'opprobre sur une profession qui fait vraiment au quotidien la preuve de son soutien et de son honnêteté, mais de la protéger de ses propres prédateurs. On se protège en faisant le ménage dans ses rangs. Il y a moins d'1% de prédateurs, il faut les empêcher de nuire, et c'est bien évidemment, on a rappelé que c'est pas du tout contre les médecins en général.
Mmh. Emmanuel Piette, là-dessus aussi.
Alors, je nuancerai, parce que c'est quand même un métier où on a le pouvoir sur le corps, et où évidemment ça peut attirer un peu plus de prédateurs. C'est quand même quelque chose qu'on apprend à la faculté. C'est le pouvoir. On va examiner des femmes pour apprendre. On va faire des dessins dégoûtants dans les salles de garde pour apprendre. Et il y a quand même une vieille histoire de domination sur les femmes qui est quand même très inscrite dans les études de médecine. Je parle pas du bizutage parce que, enfin, je pourrais, mais c'est quand même très violent. Mmh. Donc pendant les études, les étudiantes en médecine sont plus victimes que les autres. Donc c'est quand même un métier où on a plus de violence qu'ailleurs. Et donc je pense qu'il y a peut-être un peu plus de prédateurs que dans la majorité des professions, parce que c'est un métier de pouvoir.
Mais ça, c'est une impression que vous avez ou c'est basé sur des études sociologiques?
C'est tout à fait réalité. Il y a eu une étude sur les étudiants en médecine où les étudiantes racontaient beaucoup de violence. Et alors, je ne me rappelle plus, mais c'était de l'ordre de 13% pendant les études, donc c'est beaucoup. Et donc c'est une réalité. Et puis on voit bien ce qui se passe avec les violences en gynéco, par exemple, ou des choses comme ça. On voit bien que quand même, il y a ou une habitude de laisser aller, d'examiner sans demander, d'examiner les femmes de façon pas forcément éthique. Mm-hmm. Donc, il y a ça, plus des vieilles utilisées, et en particulier chez les soignants, choisir une femme fragile et lui tomber dessus, c'est une façon habituelle de faire. Elle est fragile, elle a un problème d'autorité, elle sait pas, bah tiens, allez, on va lui montrer. Et ben ça, c'est une vieille stratégie, et je pense qu'on peut arrêter ça.
Emmanuel, Dominique Dupagne, pardon.
Et il faut savoir aussi que les étudiants ne sont pas formés, joli lapsus, ne sont pas formés au danger qu'il y a à entretenir une relation. On est tous confrontés à notre désir, à des femmes séduisantes ou à des hommes séduisants pour les femmes. Il faut qu'on soit formé pendant nos études. On explique, attention, danger, il faut absolument pas céder, même si on essaie de vous séduire, et encore moins si on ne le fait pas, jamais, jamais, jamais de sexualité. Encore une fois, avec un patient dont on a la charge.
Nous avons un commentaire de Sophie. Je pourrais raconter à peu près la même chose que Cassandre, à ceci près qu'il s'agissait d'un psychanalyste, non d'un médecin. Et s'il y avait emprise sur moi, il n'y a pas eu de harcèlement du thérapeute, seulement des mois de manipulation. Que faire dans ce cas, nous dit Sophie. Emmanuel Piette.
Alors moi je dirais arrêter. Mais arrêter, c'est difficile. Parce que justement, on est sous emprise. Mmh. Donc, je dirais bien appeler le téléphone Viole Femme Information 0800 05 95 95. Parce que là, on va l'aider à remettre le truc à l'endroit. C'est difficile quand on a un lavage de cerveau permanent de se dire, mais non, je suis pas rien qu'une nouille. Non, je vais pas m'en sortir sans lui, etc. Parce qu'il s'est rendu indispensable. Parce que ça donne cette impression que on perd pied. Sans lui, on saura pas. Et on a besoin d'aide. Et donc, téléphoner, ça me semble une bonne
bien
façon
sûr.
De faire.
Certainement.
Dominique Dupagne, dans le communiqué justement publié aujourd'hui du Conseil national de l'ordre des médecins, d'abord ce sont des gens que vous avez rencontrés. Hein,
tout à fait, j'ai pas voulu les prendre par surprise.
D'ailleurs, ils font allusion à cette rencontre dans le communiqué. Leur conclusion aujourd'hui, c'est de dire que ce serait une intrusion dans la vie privée de personnes libres et consentantes que de demander justement l'interdiction de ces relations. L'interdiction par voie réglementaire, dit le communiqué, de relations sexuelles librement consenties entre un médecin et son patient contreviendrait, selon l'ordre des médecins, au principe de la liberté des personnes.
Oui, alors sur le plan juridique, on verra ce que disent les juristes. Ouais. Sur le plan de savoir, encore une fois, si on peut considérer ça comme une relation librement consentie entre un patient et son médecin, je vais laisser répondre Madame Piette.
Alors, là, l'exemple de Cassandre est évident, mais c'est la même chose que nous raconte chaque femme qui a été victime d'abus, d'agressions, de viols de la part d'un thérapeute. C'est qu'il a, d'abord, il l'a mis au tapis, je dirais, et seulement après, il l'agresse. Donc, à ce moment-là, elle est plus libre de choisir, et elle est dépendante, abîmée, et elle n'est pas libre.
Le Conseil de l'Ordre précisant, c'est la dernière phrase d'ailleurs du communiqué, une lutte déterminée contre toutes sortes d'abus à caractère sexuel que des médecins commettraient. Pourtant, on sent...
Oui, il y a une volonté, il manque juste les moyens.
Ouais. Cassandre, une réaction justement à ce communiqué du Conseil de l'Ordre.
Déjà, je pense que de libérer la parole des femmes comme on l'a fait ces derniers mois, c'est indispensable. Mais j'ai aussi envie de rajouter, après, une fois que les femmes ont parlé, on fait quoi de leur parole concrètement? Quand les patientes, elles dénoncent comme ça des médecins, qu'est-ce qu'on en fait de leur parole? Parce que s'il n'y a pas de sanction des abuseurs derrière, ben, leur parole est vaine. Donc ça, c'est un point quand même qui est très important à souligner.
Moi, je dirais quand même que à force de parler, ces femmes-là, elles se rencontrent. Et quand tu as été victime d'un médecin, on peut te dire, oui, tu as vu la Vierge, tu savais pas, gna gna. Ouais. Mais quand il y en a 15, or, ces agresseurs ne font pas une seule victime, ils en font plein.
Et Dominique,
et
donc la
on
pétition...
doit pouvoir se retrouver et faire un syndicat de victimes. Je veux dire, ça me semble important parce que ça devient crédible.
La pétition est en ligne donc depuis ce matin.
Oui, sur le site atout.org, Opération Hippocrate, et on peut laisser un commentaire, surtout en plus de sa signature, faut pas hésiter à témoigner, sans mettre de nom s'il vous plaît, parce qu'il y a de la diffamation, donc, mais en revanche on peut témoigner anonymement.
Voilà, il y a énormément de témoignages autour d'abus, très nombreux, qui sont arrivés sur cette pétition.
C'est répétitif.
Merci beaucoup en tout cas à tous les
Merci
trois, et
vous.
Cassandre, bon courage dans ce combat que vous menez là Merci. Aujourd'hui. Merci beaucoup.
La science grand format. En partenariat avec France 5.
Allez, tout autre sujet. Ce soir, 20h50, direction la planète Mars avec la série Le Cosmos dans tous ses états. David Amiel, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'unité documentaire de France 5. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur Mars ce soir avec vous?
Alors, en étant situé quand même à 228 millions de kilomètres de la Terre, Mars a accueilli en fait plus de missions scientifiques que n'importe quelle autre planète du système solaire. Et cette recherche, elle est aujourd'hui plus animée que jamais, donc notamment grâce à Curiosity, hein, le célèbre robot de la NASA qui parcourt Mars depuis maintenant 5 ans et demi. Mmh. Et donc, via lui et d'autres outils de mesure, la communauté scientifique s'intéresse en fait à la géologie de la planète, à la présence de potentielles anciennes rivières, aux calottes polaires, à des régions volcaniques, aux mouvements précédents des plaques tectoniques, à sa gravité, à son potentiel atmosphère. Et donc, on soupçonne ainsi Mars de toujours contenir un noyau de roche en fusion, qui donc c'est des traces de vie de la planète, comme la Terre. Et on sait même, grâce à tous ces indices, que ce désert aride était autrefois recouvert d'eau liquide et contient même encore des traces d'eau glacée à certains endroits. Et donc, qui sait, peut-être qu'on y trouvera un jour des traces de vie martienne.
Alors justement, extrait du documentaire.
I'm optimistic. Je suis convaincu qu'il y a eu de la vie sur Mars et qu'elle est peut-être encore présente, ou qu'il en reste des traces. Mais avant de trouver des preuves, on ne peut pas savoir si Mars a été habité par des bactéries, des plantes ou que sais-je encore. Il faut poursuivre les recherches. On sait qu'à une époque, les conditions étaient idéales. Et on sait que lorsque les conditions sont réunies sur Terre, la vie émerge. Je suis donc optimiste.
Voilà, c'était Phil Plate, astronome, qu'on entendra donc dans le documentaire de ce soir. David, est-ce que de nouvelles missions scientifiques sont prévues vers Mars?
Alors, en effet, il y a plein de nouvelles missions prévues très prochainement. Donc, il y a par exemple l'atterrisseur InSight qui va être lancé d'ici à peu près un mois, mm-hmm. qui permettra d'étudier l'évolution géologique de Mars. A priori, dans 2 ans, le futur rover Mars 2020, qui sera le successeur du fameux Curiosity, qui contiendra lui aussi de nouveaux instruments de mesure pour étudier la surface de la planète, comme des caméras haute définition, radars, des rayons X, même une unité qui permettra de produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Et donc, tout ça pour préparer une potentielle arrivée de l'homme un jour sur Mars.
Ah oui, on espère, hein, David, hein, on aimerait bien que ça arrive sur la planète rouge.
Puisque... On va le voir en direct sur France 5.
Voilà, absolument, et ce serait pour 2030, hein, s'il y a vraiment une diffusion, une retransmission en direct. En tout cas, on verra que l'hypothèse est très sérieusement étudiée au cours du documentaire de ce soir. Donc c'est Le Cosmos dans tous ses états, direction Mars, 20h50 sur France 5. David Amiel, merci beaucoup à vous, à bientôt.
Merci.